Bonjour. C'est Glissando. Vous êtes sur Graphite 94.9 sur FM, la radio curieuse. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire entendre des choses qui bougent un petit peu. Voilà, vous faire découvrir de nouveau des tas de nouvelles œuvres. Alors, on va commencer avec Claude Bolling. Claude Bolling, il est né le 18 avril 1930, il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez, à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, et il nous a quittés le 29 décembre 2020 à Saint-Cloud. Eh bien oui, c'était un formidable pianiste de jazz, chef d'orchestre, compositeur, arrangeur français. En fait, il a été un enfant prodige. Il a joué dès l'âge de 14 ans de façon professionnelle avec Lionel Hampton. Vous vous rendez compte, pianiste, grand pianiste de jazz. Et il a participé aussi aux concerts organisés par le Hot Club de France. Alors vous voyez, c'est vraiment quelqu'un de très très... Je suis très admirative de ce qu'il fait. Voilà, il est mort à 90 ans. La musique, ça conserve. Et peut-être à ce moment-là, nous allons écouter une première œuvre sentimentale. Thank you. Voilà, c'était Sentimental de Claude Bolling. Très belle œuvre. Alors, on a eu la chance quand même d'avoir dans cette œuvre Jean-Pierre Rampal, qui était un très très grand flûtiste au niveau international, donc à la flûte, et Claude Bolling qui jouait lui-même en fait au piano. Et d'ailleurs, cette œuvre, Sentimental, fait donc partie d'une suite pour flûte et jazz piano trio de Claude Bolling, donc, et a été jouée il n'y a pas très longtemps au Conservatoire municipal de musique de Compiègne avec des professeurs justement du conservatoire qui font partie des musicales de Compiègne, et ce fut un très très beau concert. Voilà. Alors on va rester au XXe siècle, et cette fois je voudrais vous parler d'un autre très grand musicien qui s'appelle Astor Piazzolla. Voilà, vous le connaissez certainement. En fait, il est né en mars 1921 à Mar del Plata. C'est une ville portuaire qui est tout près de Buenos Aires, en Argentine. À 4 ans, sa famille avait émigré à New York parce que son père, qui était émigrant, espérait trouver de meilleures conditions de travail. Quand Astor a 8 ans, son père, qui était passionné de tango, lui a offert un bandoneon. Mais l'enfant était déçu, c'est pas ce qu'il avait envie. Il aurait préféré des patins roulettes comme tous les enfants de son quartier. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais par contre, un jour, il jouait dans la cour de son immeuble et il entend un pianiste. Ce pianiste joue du Jean-Sébastien Bach, musique donc bien classique, très très belle musique. Et cet élève jouait pendant 9 heures par jour, il travaillait. Et ça a vraiment impressionné Piazzolla, qui a voulu prendre des cours avec lui, avec ce pianiste qui s'appelait Bella Vilda. Et du coup, il raconte, comme on n'avait pas d'argent, ma mère les payait avec un plat de ravioli. Donc une amitié profonde, en fait, s'est tissée entre ses parents et ce pianiste. Et cet homme lui a appris l'amour de Bach et la passion de faire de la musique. Et c'est vrai que c'est vraiment une passion de faire de la musique. Alors, on reparlera de Piazzolla tout à l'heure encore, parce que je voudrais vous faire entendre quelque chose qu'on a peut-être moins l'habitude d'entendre. C'est des œuvres pour piano. Alors, on va entendre une milonga. Une milonga, c'est un genre musical rural, typique d'Argentine, d'Uruguay ou du Brésil. Ça peut être dit comme une soirée ou un bal où on danse dans une certaine forme de tango. Alors, on va écouter tout de suite de Piazzolla, d'Astor Piazzolla, une œuvre pour piano solo, ce sera Flora Games. Eh oui, c'était du Astor Piazzolla. En fait, Dominique Lumet qui était au piano pour jouer justement cette Flora's Game, une milonga. Alors, on parlait d'Astor Piazzolla et justement, je voudrais déjà vous proposer, vous dire ce que c'est qu'un bandoneon. Connaissez-vous le bandoneon ? C'est un instrument à vent. Il y a un clavier d'un côté, de l'autre il y a un soufflet aussi. Et il y a des petits boutons sur les côtés, justement, des petits boutons du clavier qui commandent le passage de l'air. Et ceci fait vibrer des languettes métalliques. Alors, les bandoneons sont utilisés dans le tango. Et la plupart du temps, ils sont diatoniques. Ça veut dire que les boutons n'émettent pas le même son quand on ouvre ou quand on ferme, le soufflet. Vous voyez, c'est quand même compliqué. Alors, imaginons un peu. Si on compte que chaque instrument a 38 boutons pour les sons aigus et 33 boutons pour les sons graves, le bandoneoniste, hein, c'est compliqué à dire, doit apprendre 71 tons pour l'ouverture du soufflet et 71 sons pour la fermeture. Et en plus, pour compliquer la chose, l'emplacement des notes dans le clavier varie des fois d'un fabricant à l'autre. Alors vous voyez, c'est pas vraiment simple. L'arrivée de cet instrument en Argentine, c'était entre 1865 et 1870. Et en fait, c'est un peu un côté mythique. Parce que cet instrument, en fait, il a apparu à la base. C'était un orgue portatif pour évangéliser. Il aurait été amené par des marins qui l'auraient soit échangé contre une bouteille de whisky, c'est un peu bizarre, ou soit laissé abandonné dans le port. Mais c'est vraiment plus tard qu'il deviendra vraiment l'instrument icône du tango, avec des incroyables figures comme celle du musicien Astor Piazzolla. Alors, justement, j'en reviens à Astor Piazzolla. Je vous avais dit donc, au départ, son père lui offre un bandoneon, mais bon, ça ne l'intéressait pas, parce qu'il a entendu ce formidable pianiste, mais du coup, quand même, ça le travaille. Et puis, il s'y met quand même. À 17h, il décide du coup de devenir bandoneoniste. Voilà, professionnel. Il s'installe à Buenos Aires. Alors, il va jouer d'abord dans des petits orchestres, pas terribles. Après, il va quand même devenir chef d'orchestre. Il commence à écrire des arrangements, d'ailleurs, pour l'orchestre où il était. Et du coup, il va voir à Paris une formidable pédagogue qui était Nadia Boulanger, qui était donc peut-être plus justement pour la musique classique et qui va lui enseigner la fugue et le contrepoint. Mais c'est elle qui lui dit non, va vers la musique populaire argentine. C'est ton truc, si on peut dire. Voilà. Et comme ça, tu donneras une nouvelle couleur au bandoneon et aux cordes. Et à partir des années 70, eh bien, Piazzolla va devenir vraiment très, très international. Et en 1973, il compose et enregistre justement le célèbre Liber Tango, qui est vraiment très, 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 très connu et qu'on va justement écouter avec le très célèbre aussi Galeano. Vous entendrez de temps en temps les petits cliquetis, justement, que font les petits boutons du bandoneon. Thank you. Et voilà, c'était le grand, grand, grand Richard Galliano. Vous avez entendu le bruit, le cliquetis des boutons du bandoneon à la fin, hein, voilà, c'est vraiment particulier. Et voilà, c'était une improvisation sur le célèbre Libertango d'Astor Piazzolla par Richard Galliano. Eh bien, dehors, il ne fait pas très beau, hein, franchement, il fait gris. Voilà, on a un peu, on a le blues, non ? Vous n'avez pas le blues, vous ? Non, ça va ? Le blues, c'est quoi ? Savoir un peu le cafard, être mélancolique ? Eh bien, on va écouter du blues. Le blues, en fait, c'était une complainte du folklore afro-américain. C'est né dans le sud des États-Unis, dans l'état du Mississippi. D'abord, c'était rural, puis c'est devenu un peu urbain. C'était caractérisé par une formule harmonique constante et un rythme à quatre temps. Et le style a influencé le jazz et la plupart des formes musicales dérivées du rock. Je vous propose d'écouter un violoniste ukrainien, voilà, né en 1973, il s'appelle Graf Murja. Il a commencé le violon à 3 ans. À 9 ans, il est rentré à l'école centrale de musique de Moscou des enfants surdoués. Il a été lauréat de nombreux concours internationaux. Et du coup, eh bien, il va nous interpréter une œuvre d'un compositeur qui s'appelle Igor Frolov. Et c'est une pièce en style de blues. magnifique blues joué justement par ce violoniste ukrainien, Graf Morja, voilà, qui nous a vraiment laissé dans une impression très particulière. Alors, on va poursuivre avec une œuvre tout d'abord un peu mélancolique. Et puis, vous allez voir, ça s'arrange, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est une œuvre pour quatuor à cordes d'un certain Félix Mendelssohn. Alors, qui est ce fameux Félix Mendelssohn? Il est né le 3 février 1809 à Hambourg, dans une famille aisée et cultivée. Il a grandi à Berlin, où son père Abraham était banquier. Il est le deuxième d'une famille de 4 enfants. Mais lui et sa sœur, Fanny Mendelssohn, ont montré un génie précoce pour la musique. Et c'était leur maman qui leur enseignait le piano. Félix, en fait, se montre doué pour tout. Voilà, pour les langues, la littérature, la philosophie, le dessin et bien sûr la musique. Alors il fait du piano, il fait de l'orgue, il fait aussi un peu de violon, du chant. Il étudie la composition aussi, et avec de grands professeurs. Et il a écrit de nombreuses choses, bien sûr. Il y a un célèbre concerto pour violon, d'ailleurs. Il a écrit 7 quatuors à cordes. Mais vous allez me dire, c'est quoi un quatuor à cordes? Alors, je vous indique qu'un quatuor à cordes, quatuor d'abord, on est 4. Alors, il y a 2 violons, le premier violon, le second violon, l'alto, et le violoncelle, donc qui ont chacun des parties séparées qui se complètent magnifiquement. Et vous allez voir dans ce quatuor à cordes opus 13 en la mineur, en fait c'est le premier publié, il est écrit entre juillet et octobre 1827. Il s'agit donc d'une œuvre de jeunesse. Le musicien, il avait à peine 17 ans lors de son écriture, vous voyez, donc voilà, très fort. D'ailleurs, cette composition suit de peu le décès de Ludwig van Beethoven. Et du coup, Mendelssohn a dû ressentir quelque chose de la mort de Beethoven parce que son inspiration, du coup, s'en ressent un peu. Alors, ce quatuor à cordes est en 4 mouvements, mais nous n'écouterons que le 3e mouvement, donc Intermezzo. Thank you. Voilà, c'était l'intermezzo, donc un des mouvements du magnifique Quatuor, opus 13, de Félix Mendelssohn. Et c'était joué par le Quatuor Talisch, qui est un très très grand Quatuor, réputation mondiale, internationale. Nous sommes en fin d'année, et du coup, entre le 23 novembre et le 21 décembre, eh bien, si vous regardez l'horoscope, vous êtes Sagittaire. Ah, le Sagittaire, c'est un élément du feu, le pouvoir de rayonnement, et sa planète, c'est Jupiter. Ah, voilà, la planète de l'abondance. Alors, pour vous parler justement de Jupiter, j'ai pensé à Gustav Holst. Eh bien, il est né en 1874 et mort en 1934. Donc, voyez, on reste fin 19e, début 20e, là, cette... aujourd'hui pour notre émission de Glissando sur Graphite 94.9 FM. Donc Gustav Theodor Holst, en fait il est né au Royaume-Uni, à Cheltenham, et il est mort à Londres. C'était un compositeur anglais. Il a entamé une carrière de compositeur en étant étudiant au Royal College of Music. Mais il était incapable de vivre de ses compositions. Alors il a quand même joué du trombone. Il l'a fait d'une manière professionnelle puisqu'il est devenu un excellent professeur. Alors, bien que principalement connu pour sa suite orchestrale que nous allons écouter et qui s'appelle « Les planètes », il a tout de même composé un grand nombre d'œuvres de genres divers, mais aucune n'a eu autant de succès que ces fameuses « planètes ». Les planètes, elles ont été... composé entre 1914 et 1917. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer en fait un extrait des planètes. Ce sera Jupiter.
Thank you.
Eh bien, voyez, on avait commencé avec tout doucement, on va dire, avec du sentiment. On était sentimental. Après, on avait le blues. Voilà que maintenant, on a vraiment une pêche d'enfer grâce à Jupiter et avec Gustav Holst. Et on va continuer justement dans cette lancée. Voilà. Je vous propose, pour terminer notre émission Glissando, vous savez, Glissando, c'est votre nouvelle émission de musique classique et pas seulement. Voilà, sur Graphite, 94.9 sur FM. Et je suis très heureuse de pouvoir vous présenter de belles œuvres. Et bah, peut-être vous pourrez dire si vous aimez ce que vous entendez là maintenant tous les mercredis matins. Alors, pour terminer justement ce jour, je vous propose de la musique irlandaise. Alors, la musique irlandaise utilise le chant, le whistle, c'est-à-dire c'est une petite flûte droite à 6 trous. Elle est en général en métal et elle est souvent utilisée, enfin même couramment utilisée dans la musique des îles britanniques, en Angleterre, en Écosse, Pays de Galles, en Irlande. Et puis vous avez aussi le fiddle. Qu'est-ce que c'est que le fiddle ? Eh ben, c'est un terme anglais désignant le violon, mais avec une connotation un peu populaire. Voilà, parce que en anglais, quand on parle de violin, c'est le violon, on va dire le violon classique. Et le fiddle, eh bien, c'est le violon justement de la musique irlandaise. Mais voilà. Ceux qui en jouent vraiment très bien, vous pourrez bientôt l'entendre. D'ailleurs, le musicien qui joue du fiddle s'appelle le fiddler, et on pourrait dire un petit peu en français le violonneux, voyez, ou celui qu'on va trouver plutôt dans les milieux folk ou traditionnels, trada, comme on dit. Voilà. Donc, on va entendre justement de la musique irlandaise avec donc le chant, le whistle, le fiddle, l'accordion, des percussions également. Et eh bien, allons-y, c'est Riverdance avec Rail Around the Sound. And whisper. Eh bien voilà. Notre émission de Glissando se termine pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une heure de bonheur. Je vous dis à la semaine prochaine.